Ce trimestre, nous parlons de la formation, de l'emploi et du droit du travail. Vous allez écouter une émission réalisée par Jean-Christophe Blancan avec le club d'entreprise de la Rive Droite et de Haute-Garonne, Développement, agence de développement économique. Vous entendrez aussi le directeur de Haute-Garonne Développement, Jacques Bouin, les responsables de la pépinière de Lormont FMO2, de la pépinière de Floirac, Solarouache. Ils donneront aussi des informations sur les dispositifs contrats d'avenir et crédits d'impôt.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, ce soir, c'est la reprise de l'écho des entreprises sur O2 Radio. Voilà, ce lundi soir, voilà, nouveau rendez-vous, nouvelle formule. Voilà, l'écho des entreprises proposé par O2 Radio en partenariat avec Haute-Garonne Développement, l'agence développement économique de la Rive Droite. Voilà, évidemment, qui sera représenté tout au long de cette saison par Jacques Blouin, le directeur d'Haute-Garonne Développement. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Jean-Christophe.
Alors Jacques, on le dit, hein, on l'a dit, on le répète, nouvelle formule. Alors avec des nouveaux rendez-vous sur l'écho des entreprises, à savoir des entreprises qui démarrent, mais aussi des paroles d'experts sur certains dispositifs, on le verra ce soir avec les emplois d'avenir, ou encore le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Et enfin, bien sûr, des témoignages toujours riches. Et ce soir, on aura l'occasion d'avoir un témoignage sur la formation et les compétences pour et avec Geoffrey Ferreira pour la pâtisserie. Voilà, Geoffrey Ferreira qui nous racontera son parcours dans la pâtisserie. Et d'ailleurs, je crois savoir que demain, il ouvre son magasin à Bordeaux, Geoffrey Ferreira. Donc, ça sera la pâtisserie Ferreira. Donc, c'est à proximité de la place de la Bourse. Évidemment, on vous donnera toutes les indications en fin de cette émission. Et il pourra revenir effectivement sur l'apprentissage, la formation qui ont permis la réalisation de cette ouverture qui se déroulera demain matin. Donc Jacques Blouin, on va commencer tout de suite cette nouvelle écho des entreprises qui démarre cette saison.
Oui, riche d'informations d'abord.
Oui, avec un agenda.
Plein de rendez-vous.
On essaiera chaque début d'émission justement de faire...
Ça va vraiment nécessiter que les chefs d'entreprise prennent papier, crayon, agenda.
Tout à fait, j'ai envie de dire à vos agendas.
Et surtout peut-être tout ce qui est iPad, iPhone, voilà. Etc.
Bon. Donc Jacques, on commencera toujours cette émission par les rendez-vous de Haute-Garonne Développement. On le sait, les rendez-vous de Haute-Garonne Développement et de ses partenaires, et notamment les clubs d'entreprise qui sont nombreux sur la rive droite. Et on le sait, il y a toujours une actualité assez riche. Donc voilà, tous les 15 jours, on reviendra sur cet agenda, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Alors Jacques, peut-être qu'on peut commencer, mais déjà, dès ce jeu...
Oui, dès cette semaine. Voilà. Dès cette semaine, Haute-Garonne Développement, donc, anime et tient des permanences pour la création, le développement et la reprise d'entreprise, donc dans plusieurs communes. Donc mercredi 11 septembre, de 10h à 12h, c'est à la mairie de Saint-Sulpice et Camérac, mercredi 11. Jeudi 12, de 10h à 12h, c'est à la mairie d'Ambès. Et puis mercredi 18, de 10h à 12h, c'est à la mairie d'Ambarès-et-la-Grave. Voilà, chaque mairie adhérente à Haute-Garonne Développement a voulu accueillir ses permanences pour aider des candidats à la création d'entreprises. C'est la raison pour laquelle on se retrouvera régulièrement dans ces communes pour informer les candidats à la création d'entreprises à ces dates-là, très souvent de 10h à 12h.
Donc on peut dire que Haute-Garonne se délocalise finalement, va au plus près finalement de ses adhérents, des entreprises, voilà. Des porteurs de projets.
L'idée c'est effectivement de travailler avec les candidats, les chargés de mission de développement économique des communes ou à défaut aussi les adjoints chargés des affaires économiques des communes pour que la réflexion elle soit au plus proche du terrain. Et que le candidat puisse éventuellement se rapprocher de sa mairie pour voir dans quel quartier, sur quel espace communal, il peut implanter son entreprise.
Alors juste pour information, Jacques, mais on le rappelle quand même pour nos auditeurs, nos auditrices, Haute-Garonne Développement compte des adhérents sur une vingtaine de communes de la rive droite. Et c'est bien ça, Jacques Blois ?
19 communes exactement.
Très bien.
Voilà.
Donc on poursuit, Jacques, avec d'autres rendez-vous.
Jeudi 12 septembre. Donc dans le cadre de nos ateliers thématiques, hein, organisés justement à destination des créateurs d'entreprises, mais aussi même des chefs d'entreprise, on organise des ateliers donc qui ont lieu de 9h à 12h en général, donc au CIF à Floirac, avenue Jean-Alphonséa. Et le prochain, donc le 12 septembre, c'est définir la stratégie commerciale de son entreprise. Et on se rend compte que, je le disais, on s'adresse bien sûr aux candidats à la création d'entreprise, mais finalement, des jeunes entrepreneurs viennent aussi nous voir et viennent à ces ateliers parce qu'ils n'ont pas suffisamment défini leur stratégie commerciale ou ils ont besoin de la revoir et que finalement le passage dans un atelier va les y aider.
Oui, sachant d'autant plus que le CIF à Floirac, le Centre d'innovation et de formation, héberge aussi une pépinière d'entreprise qui, elle, est dédiée à l'éco-construction, Jacques.
Tout à fait. Tout à fait, avec une douzaine d'entreprises qui sont accompagnées dans le cadre de cette pépinière.
Très bien, on poursuit avec d'autres rendez-vous encore, Jacques Allan.
Alors, un autre rendez-vous qui s'adresse à des entreprises déjà installées, le 12 septembre à 18h30, cette fois au CIF de Floirac, on aura le plaisir d'accueillir le président de la Chambre des métiers d'artisanat de la Gironde, Monsieur Petitjean, qui viendra signer avec notre président, Franck Moras.
Bien sûr, Monsieur Moras.
Président de Haute-Garonne Développement, une signature, donc signer la convention de partenariat entre la Chambre de métiers et nous. Une convention, en fait, qui va porter sur une coopération entre nous deux, donc nos deux structures, sur la création et le développement et la transmission d'entreprises, qui va aussi porter sur une formation que nous mettons en œuvre sur le management, hein, comment booster les compétences en interne, hein, des ressources humaines, et comment booster les compétences aussi du chef d'entreprise.
Donc c'est vrai qu'en période de crise, c'est voilà, on a envie de dire,
c'est le moment de booster. C'est absolument nécessaire. Donc c'est une formation qui est montée avec la Chambre de métiers. Et puis aussi, le troisième volet, c'est tout ce qui concerne la diversité en entreprise, où la Chambre de métiers vient avec nous pour nous soutenir dans cette action de promotion de la diversité en entreprise.
Voilà, donc on le voit, un partenariat qui s'enrichit au long des années, et encore un nouveau qui sera entériné par cette convention, la Chambre des métiers et l'artisanat de la Gironde. Et alors, on le voit, une journée très riche, 12 septembre, le matin des ateliers, l'après-midi, signature de la convention, mais encore notre rendez-vous sur la journée du 12 septembre.
On le voit, les jeudis sont vraiment consacrés pour un bon nombre d'entreprises à des rendez-vous, parce que c'est vraiment là aussi que les entrepreneurs, souvent les chefs d'entreprise, sont le plus disponibles dans la journée, ou se rendent le plus disponibles pour ce genre de manifestations, d'ateliers, de soirées où ils vont être amenés à apprendre. Et là
justement, c'est à 19h.
Le 12 septembre, voilà, c'est à 19h, au CIBC, avenue Thiers à Bordeaux. Donc la soirée est organisée par le club d'entreprise de ce nom. Et c'est une soirée autour de la VAE, hein, la validation des acquis par l'expérience.
Donc on salue Monsieur Bonnet, s'il nous écoute,
voilà,
le président.
Voilà, exactement. Et puis, le club de ce nom invite les chefs d'entreprise du club, mais plus largement de la rive droite des Hautes-Garonnes, à participer à cet atelier à 19h au CIBC avenue Thiers.
Très bien, Jacques. On passe à la semaine suivante, donc le mardi 17 septembre à 12h.
Le mardi 17 septembre à 12h, eh bien, c'est la table d'hôte qui est organisée par le club d'entreprise des Deux Rives et le club d'Artigues. Et c'est dans un nouveau restaurant à Ambarès et La Grave. C'est exactement le restaurant Lambar qui nous accueille pour cette réunion de chefs d'entreprise. Un déjeuner qui permet aux chefs d'entreprise de faire connaissance, approfondir leur relationnel et faire des affaires aussi, ou au moins faire mieux connaissance pour enclencher peut-être d'autres rendez-vous qui seront peut-être fructueux.
Très bien, on finit cet agenda avec la date du jeudi 19 septembre à 8h30 au CIF de Floirac.
Oui, tout à fait, avec dans le cadre des cafés gourmands d'infos co-organisés avec la CCI de Bordeaux, donc le président de la CCI, Pierre Goguet, en partenariat avec les clubs d'entreprise de la rive droite et avec Haute-Garonne Développement, organise donc le jeudi 19 septembre à Floirac, de 9h à 12h, un atelier sur l'intérêt des réseaux, hein, pourquoi réseauter. Et puis, la deuxième partie de l'atelier, c'est booster sa présence en ligne. voilà, s'adresse vraiment, c'est dans l'air du temps, mais je crois que c'est les entreprises qui veulent vraiment
s'assurer une visibilité et même faire du e-commerce, on le voit, hein, c'est un secteur qui progresse chaque année
vraiment très nettement. Donc participer à cet atelier pour apprendre, c'est une, je crois, une bonne chose.
Bon, très bien, on a vu des dates jusqu'au jeudi 19 septembre, évidemment on vous redonnera des dates, mais à l'occasion de notre prochaine écho les entreprises qui aura lieu donc le lundi 23 septembre, évidemment on déroulera l'agenda à ce moment-là, Jacques.
Exactement.
Donc on poursuit cette émission avec des jeunes entreprises qui démarrent et des jeunes entreprises qui sont hébergées dans des pépinières. Hein. Donc c'est pas complètement innocent, Jacques, et ces deux pépinières, une à Lormont et une à Farac, on a parlé il y a quelques secondes. Donc des pépinières qui sont pilotées par Haute-Garonne Développement, Jacques. D'ailleurs, ça nous permettrait de présenter qu'est-ce que c'est qu'une pépinière. Hein.
Oui, alors la pépinière, tout d'abord, c'est vrai que Haute-Garonne Développement pilote deux, une à Lormont, une à Florac.
Avec deux thématiques différentes.
Deux thématiques différentes. À Lormont, et c'est, on va évoquer l'entreprise qu'on accueille aujourd'hui. La pépinière, c'est d'abord un espace d'accueil, d'hébergement, hein, pour des nouvelles entreprises qui démarrent. Donc c'est avec des loyers inférieurs au prix du marché. Mais c'est aussi et surtout un contrat d'accompagnement avec le chef d'entreprise, hein, pour que son entreprise soit coachée, entre guillemets, pour qu'elle puisse se développer le mieux possible, et puis qu'on puisse un petit peu encadrer son évolution dans le cadre d'un plan d'affaires que nous voyons avant son entrée en pépinière.
Alors, cette incubation en pépinière, elle a un temps déterminé, quoi. Elle doit durer tant d'années
En pépinière, on y reste théoriquement pas plus de 23 mois. C'est un bail précaire. Ceci étant, certaines entreprises qui grossissent vite, s'en vont avant les 23 mois parce que les locaux deviennent trop petits. D'autres, pour lesquels c'est plus difficile, pour lesquels le démarrage, voilà, sont plus lents, demandent une prolongation. Et cette prolongation est acceptée si on estime que le compte de résultat présenté laisse entrevoir qu'une année supplémentaire permettra de vraiment décoller. Et là, dans ce cas, on signe un an supplémentaire. Sinon, on dit qu'il faut arrêter. Voilà, c'est tout, quoi.
Alors, Jacques, on le disait, deux pépinières, Lormont et Florac, mais deux thématiques différentes. Alors, celle de Lormont, c'est le médical, la
celle
santé, le bien-être.
Oui, alors plutôt bien-être, santé et prestations de services aux entreprises.
Aux entreprises, très bien.
Alors que celle de Florac est axée sur l'éco-construction, les métiers du bâtiment et l'éco-construction.
Bon, mais en votre compagnie, Jacques, on va pouvoir tout de suite accueillir sur ce plateau donc Aurélie et Christian, qui sont tous les deux co-gérants de SMO2. Alors SMO2, alors on va nous expliquer ce que ça veut dire. Et en tout cas, bonsoir Aurélie et Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors effectivement, co-gérant d'une entreprise qui fait la vente de matériel médical et paramédical, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Nous sommes donc SMO2, deux co-gérants, donc Christian et moi-même, Aurélie. Ça nous fait une petite année que nous sommes installés en pépinière d'entreprise et notamment sur celle de Lormont. Donc nous travaillons sur le secteur médical et paramédical. Nous vendons principalement à des professionnels.
Très bien. Donc votre cœur de cible, ce sont des professionnels. Alors justement, quel type de professionnels, Aurélie?
Donc nous travaillons avec des hôpitaux comme Charles Perrins, des structures d'accueil comme la Tour de Gassy. Nous avons aussi le SDIS 47 qui représente l'ensemble des casernes du département. Nous travaillons avec des secteurs un peu plus insolites comme les tatoueurs qui nécessitent beaucoup de matériel en termes de désinfection et matériel médical en général. Nous avons aussi un beau créneau sur les infirmières scolaires, les EHPAD. Nous développons deux axes, le matériel médical et l'hygiène.
Très bien. Alors, vous avez commencé à nous dire quelques mots de ce que vous vendez comme matériel. On a entendu parler d'hygiène. Mais pouvez-vous nous préciser effectivement quels sont les types d'objets ou d'outils que vous vendez, que vous commercialisez?
Tout ce qui est hôpitaux, beaucoup de consommables, donc des draps d'examen, de l'essuyage, des carrés de soins, de l'hygiène par la désinfection, notamment chez les tatoueurs avec la stérilisation, les gels hydroalcooliques, etc. Et après, nous vendons du matériel, donc infirmière scolaire, beaucoup de diagnostics, donc audiomètres, tout ce qui sert à tous les tests d'Ishihara pour la lecture, le dépistage de la vision chez l'enfant. Et après, hygiène, les parkings de Bordeaux, tout ce qui est désinfection des locaux, des structures.
Voilà. Et donc là, vous avez mis quoi, une année pour trouver, on va dire, ses premiers clients. D'ailleurs, vous en avez cité quelques-uns. Ça a été une démarche longue, plus longue de ce que vous aviez prévu. Et comment vous avez identifié finalement ce besoin dans la région ?
Le besoin, il existe. Je pense que le business plan qu'on a fait au départ faisait bien ressentir qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur ce marché-là. Néanmoins, nous étant relativement audacieux, c'est quelque chose que nous avons tenté. Après, sur l'ensemble, aujourd'hui, on se débrouille pas trop mal.
Alors comment vous avez fait pour vous démarquer, excusez-moi, oui. Mais comment vous avez fait pour vous démarquer finalement de cette concurrence qui était déjà là?
Je pense qu'on a évité tout ce qui était mailing et j'ai pris ma voiture et je suis partie me présenter. Voilà.
Oui, Jacques, excuse-moi. Mais je crois que c'est exactement ce qui a fait la différence. Quand on reçoit plusieurs dossiers comme ça en comité d'agrément, on se dit toujours comment, avec un marché existant mais concurrentiel, comment des nouveaux candidats et qui veulent rentrer dans la pépinière et se développer, vont y arriver pour se démarquer, parce qu'il faut la gagner, la clientèle, hein, il faut vraiment y aller. Or, je crois que ce qui a fait la différence, c'est ce qu'ils nous ont raconté à ce moment-là, on a vu leur détermination. Quelquefois, on ne sent pas chez des candidats la capacité à être chef d'entreprise et à en vouloir. Là, c'était très net chez eux, vraiment une volonté, une capacité, et puis ne pas attendre, effectivement, ne pas se satisfaire que de mails et d'aller au front.
Donc le contact direct, beaucoup de terrain, du déplacement au plus près des clients, des futurs clients. Donc c'est ça qui peut faire la différence finalement, oui. En plus des prix qui restent certainement concurrentiels.
Oui. Bien sûr, et je pense qu'on a fait la différence en allant se présenter, cet élan spontané et la relation qu'aujourd'hui on tisse avec nos clients. On travaille sur des structures comme des EHPAD où c'est extrêmement bataillé comme marché, des tatoueurs où on arrive dans un secteur qui est complètement différent et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, moi, de voir, d'avoir le choix de mes axes, d'avoir le choix de mes axes de développement qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de tous ces secteurs-là.
Alors, un mot sur la production de ces outils que vous vendez, de ces composants. Où sont-ils produits ? Localement, je crois ?
Oui. Alors, nous faisons appel. Alors, c'est un marché qui redevient, entre guillemets, à la mode. Les mairies, sur les appels d'offres notamment, ils font de plus en plus de demandes. On travaille sur du circuit court, avec un développement durable, fabrication française, etc. C'est quelque chose qui revient, entre guillemets, à la mode, sans COV. Bon, après, il y a tout ce qui intervient au niveau des organismes volatiles, nocifs.
Ça peut être aussi un argument supplémentaire aussi pour certains marchés.
Peu de gens sont encore sur ce marché-là, donc c'est quelque chose que nous développons.
En termes d'objectifs, au bout d'un an, vous êtes arrivé à vos objectifs finalement financiers ?
Non, vous êtes extrêmement audacieux, donc bien sûr que non.
Mais vous pensez y arriver prochainement ?
Oui, demain. Demain vers 15h.
Donc aujourd'hui, combien de salariés ? Alors, je vais peut-être pas laisser la parole à Christian. Alors, je crois savoir d'ailleurs, Aurélie, que vous occupez plus de la partie commerciale, oui. Et Christian plus de la partie administrative. C'est bien ça, Christian ?
Tout à fait.
Aujourd'hui, vous êtes deux salariés, c'est ça ?
Nous ne sommes que tous les deux, oui, tout à fait.
Donc là aussi, pareil, à terme, si les résultats espérés, attendus sont atteints, peut-être un développement qui passera aussi par du recrutement ou...
Ah, bah, absolument, oui. C'est le but de l'entreprise, si vous voulez, c'est de démarrer doucement et à partir du moment où on aura un fonds de roulement suffisamment important, c'est de créer des emplois à terme. C'est absolument le but du jeu. Oui.
Très bien. C'est aujourd'hui voilà, un établissement, une mairie, une entreprise, une société nous écoute, veut prendre contact avec vous. C'est facile, on peut aller voir sur le net, un coup de téléphone. Comment on fait ?
On est en train de mettre en place la page internet. Pour l'instant, c'était pas ma préoccupation. C'était plutôt de lancer SMO2.
Un téléphone.
Prendre contact à pépinière d'entreprise. Oui, tout à fait.
Tout simplement.
Tout à fait. Et nous sommes à leur nom.
Très bien. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose sur votre expérience d'entrepreneur. Est-ce que c'est votre première expérience d'entrepreneur ? Est-ce que c'est une nouvelle expérience ?
Pas du tout. J'en suis à ma quatrième expérience en tant qu'entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis à peu près 35 ans. Donc, ce n'est pas la première, si vous voulez. En plus, j'ai quand même pas mal d'habitudes de contact au niveau de la clientèle, puisque j'avais, et les derniers temps, nous avions tous les deux un magasin. Donc on a quand même une certaine habitude aussi de la clientèle et une certaine approche. Après, on est parti sur une pépinière pour plusieurs intérêts, la pépinière d'entreprise.
Alors justement, Christian, un mot sur le choix de se faire héberger dans une pépinière pour démarrer cette activité.
Elle est d'abord financière. Parce que fiscalement, on a pu obtenir donc un délai de... on ne paiera pas d'impôts sur les sociétés pendant une période de 3 ans, je crois, puis après 2 ans dégressifs. Ensuite, la pépinière nous apporte un accompagnement. Ce qu'a dit M. Blouin tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a un accompagnement qui est quand même relativement intéressant. Et la dernière chose, c'est que la charge de structure est très, très peu élevée. Donc, ça nous permet de pouvoir justement tirer au plus près au niveau de nos prix et donc gagner de la clientèle par là même.
Très bien. Donc on le voit, hein, pour certaines activités, certains démarrages d'entreprise, bon, finalement le passage en pépinière est quand même nécessaire et apporte finalement, on va dire, créer les conditions favorables à un meilleur développement ou disons un développement plus rapide de l'entreprise. Hein.
Les chiffres au niveau national, et nous on est vraiment dans cette frange-là, on assure que 85 à 90% des entreprises qui passent en pépinière réussissent à 3 ans, voire à 5 ans. Elles existent encore. Donc, alors qu'autrement, ça se casse la figure quelquefois plus vite.
On va dire, ah, ouais. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est de réussir dans cette entreprise.
Quoi, Aurélie,
Christian. Non, bien sûr, de réussir, de vous développer. Donc, on le rappelle, SMOD, SMO2, la pépinière de Lormont. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous le souhaitez. On remercie encore pour votre témoignage. On va passer tout de suite à votre voisin qui nous a rejoint sur ce plateau, qui est Grégory Bouteau. Bonsoir, Grégory. Bonsoir. Donc voilà, vous représentez l'entreprise SolarWatch.
SolarWatch, et en fait une deuxième société qui s'appelle SolarPerf. On a deux activités qui sont conjointes.
Très bien. Donc vous êtes gérant, co-gérant ?
En fait, je suis gérant sur la première et co-gérant sur la seconde, effectivement.
D'accord. Alors j'avais quelques infos sur SolarWatch. Vous allez me dire si c'est exact. C'est une société qui s'occupe de nettoyage et de maintenance de panneaux photovoltaïques.
Tout à fait. En fait, SolarWatch donc, est spécialisé sur le nettoyage des installations photovoltaïques professionnelles. SolarPerf, qui est la deuxième société, elle est spécialisée sur la maintenance de ces installations. C'est né d'un constat assez simple. J'ai été installateur ingénieur commercial dans deux sociétés d'installation pendant environ 4 ans et demi. Le marché a beaucoup évolué et aujourd'hui, beaucoup d'installateurs ont disparu. Les installations sont un peu, on va dire, laissées sur les bras des propriétaires qui ne savent pas trop comment les gérer. Et suite à de nombreuses demandes, et bien avec un de mes anciens clients et maintenant associé, on a décidé de créer cette activité afin de répondre à tout type de demandes, que ce soit nettoyage pour garder justement la productivité et également la maintenance pour subvenir à tout besoin au niveau des pannes, au niveau de l'entretien et puis du renouvellement du matériel.
Donc là, le choix de la pépinière de Foirac dédiée à l'éco-construction, c'était pas là aussi un du haut hasard?
Non, en fait, ça s'est joué à plusieurs niveaux. Le premier, effectivement, ça a été géographique. Il y a également des avantages au niveau des constructions, puisqu'on a des voisins qui sont à peu près dans le même corps de métier et avec lesquels on arrive à s'entendre et à avoir également des informations sur les différents marchés qu'on peut trouver. Je vous parlais de géographie puisque on est trois à travailler sur cette société et que tout le monde s'était allé, on va dire, au centre géographiquement des trois personnes. Il y a également le côté accompagnement puisqu'on avait la possibilité de bénéficier du réseau, de l'aide, des appuis des différents partenaires qu'on peut trouver sur cette pépinière. Voilà, donc ça a été pour nous une bonne idée de tremplin et ça sécurisait en fait notre mise en place.
Très bien. Alors vous avez dit dans votre présentation qu'il y avait beaucoup moins d'installateurs et encore moins de personnes qui s'occupaient de l'entretien. C'est dû à quoi ?
Le marché a beaucoup changé. Quand j'ai commencé en 2008, on a eu un tarif de rachat très élevé, donc une véritable explosion du nombre d'installations en France. J'ai travaillé dans une société qui est passée de 70 salariés à 450 en un an. Suite à cela, le gouvernement a décidé de mettre un moratoire en place en 2010 qui a donné un écroulement assez rapide du marché.
Donc en fait, en attaquant les filières, la filière de production tout simplement
La filière d'installation.
L'installation.
La production en France est très très limitée, on a peu d'intervenants sur la production.
Et c'est dommage d'ailleurs parce que ces panneaux, je crois qu'on va les chercher jusqu'en Chine, c'est ça?
Principalement en Chine, également en Allemagne. Par contre en France, on a un marché mais qui est très très restreint. Je connais deux ou trois producteurs, malheureusement certains là sont aujourd'hui en train de mettre la clé sous la porte. Donc ces marchés sont arrivés effectivement grâce à l'import. On a eu une véritable déferlante des installations. Beaucoup s'y sont mis, on va dire, par effet d'opportunité. Ça a été un vrai métier qui était assez compliqué. Malheureusement, l'érosion du tarif de rachat et puis les différentes politiques mises en place ont fait que le marché a vraiment explosé en moins de deux ans. Donc aujourd'hui, on a un parc d'installations qui est énorme. On se retrouve avec un nombre d'installations sur la région. Je connais un peu plus de 2000 installations qui ont été réalisées rien que sur l'Aquitaine.
On va dire particuliers et collectivités mélangées.
Collectivités et agriculteurs
d'accord.
et industriels.
D'accord.
Donc juste là-dessus, sur les particuliers, c'est bien plus que ça. Nous, on ne s'occupe que de la partie professionnelle.
D'accord. Donc vos clients, c'est plus
uniquement du professionnel. D'accord. Donc des surfaces qui, au minimum, sont de l'ordre de 250 mètres carrés et qui vont jusqu'à... Là, on a des demandes pour 120 000 mètres carrés.
Oui. Vous pourriez peut-être préciser pourquoi c'est important de nettoyer tous ces panneaux photovoltaïques.
Alors,
parce que, a priori, oui. Ils sont sur la toiture, ils sont tranquilles.
On pourrait penser qu'ils soient auto-nettoyants.
Peut-être aussi.
Effectivement, ça a souvent été vendu comme ça. Le côté auto-nettoyant, ce qui est totalement faux. Je vais vous donner un exemple assez simple, mais si votre voiture, vous la laissez pendant un an à l'extérieur sans y toucher et que je vous demande de la remettre en route sans toucher aux essuie-glaces, c'est quasiment impossible puisque les feuilles, la crasse, la verdure, le pollen, tout ce qu'on va pouvoir trouver dans notre jolie région va venir encrasser un peu tout ça.
Donc un panneau, c'est la même chose finalement
Un panneau sali, la pluie va juste venir le lessiver et on aura l'impression qu'il est propre. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui compte pour les panneaux photovoltaïques, c'est pas du tout le côté esthétique, on ne vient pas nettoyer histoire que ce soit joli. L'électricité qui est produite est revendue. Donc si le panneau est sale, les rayons solaires ne passent plus ou passent beaucoup moins bien et donc il y a une perte de production. Le business plan qui a été mis en place initialement est totalement faussé. Et on arrive à des pertes qui sont assez importantes. Pour vous donner un exemple, un bâtiment de 2000 mètres carrés qui va produire normalement, si on le laisse s'encrasser au bout d'un an, régulièrement, il va perdre 5% de productivité à l'année. Ça chiffre très vite puisque les investissements étaient très lourds et que la rentabilité en retour forcément était conséquente.
Bon, on voit l'argument du nettoyage. Bon, voilà.
Tout à fait.
Effectivement, très efficace.
Ça permet de faire gagner, de ne pas perdre d'argent en tout cas sur les 20 ans.
Après, je me dis en vous écoutant, Jacques, je ne sais pas si tu penses la même chose. Finalement, on peut se dire, vous seriez peut-être plus aidé s'il y avait une ligne peut-être plus claire défendue par un gouvernement qui veut mettre vraiment en avant cette filière-là, en aidant peut-être plus la production même ici en France, et ensuite sécuriser la filière avec justement les installateurs, les ceux qui les entretiennent. Est-ce que vous manquez pas d'un discours clair sur justement cette énergie liée au photovoltaïque?
Non seulement d'un discours clair et puis d'une ligne directrice claire là également. Quand on vient de voir par exemple Delphine Bateau qui vient d'être débarquée, on se rend compte que les soucis de nos dirigeants sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Il y a eu un nombre d'emplois plus que conséquent qui a disparu. J'avais entendu parler de 40 000 emplois créés dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a au moins 30 à 35 000 qui ont disparu. C'est une filière qui a été vraiment, on va dire, une image marketing pour le gouvernement précédent, puisque le Grenelle a été une idée très favorable. Pour ma part, j'ai l'impression qu'ils ont été très généreux au départ et qu'ils se sont rendus compte qu'ils l'ont même été un peu trop.
C'est-à-dire qu'entre-temps, ça a été rattrapé par la crise économique, financière.
Par la crise.
Et souvent, bon, finalement, l'environnement.
Oui, c'est la cinquième roue du carrosse, effectivement, on s'en soucie, on va dire. Ça a été surtout pour des raisons économiques, alors qu'effectivement, il aurait fallu avoir une idée plus environnementale et plus écologique. Ils ont prôné
La région Aquitaine était assez à la pointe, d'ailleurs, sur cette
technologie-là. Tout à fait, ça a été vraiment, en fait, il y a deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine, qui ont été vraiment très, très motivées par ces projets. On a eu un ensemble d'aides ou de motivations qui ont été mises en place par les deux régions. Malheureusement, effectivement, il y a eu un demi-tour à 180 degrés qui a été opéré. Aujourd'hui,
on a du mal à s'en remettre.
Oui, et puis quand on nous parle des énergies fossiles, pour citer le nucléaire par exemple, qu'on nous indique aujourd'hui au prix du kilowattheure très rentable, on ne prend jamais en compte les frais de maintenance justement et de remise en état des centrales.
Voire de fermeture qui dure très 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 longtemps.
Bah, la fermeture, je pense que nous ne serons plus là pour les voir, les fermetures, mais ce sont des processus qui demandent énormément de temps et surtout beaucoup beaucoup d'énergie. Et en plus au prix également de sacrifice de vie humaine, puisqu'aujourd'hui il faut savoir que la maintenance sur ces énergies est faite par des prestataires extérieurs, puisque les sociétés d'exploitation ne veulent plus envoyer leurs propres employés. Oui.
D'ailleurs, une centrale était condamnée aujourd'hui pour un cancer de poumon d'un intérimaire.
Tout à fait. Et donc l'écologie, le grand éolien, le photovoltaïque ont été, on va dire, des mannes financières, alors qu'effectivement, elles auraient dû être perçues comme des sources de remplacement importantes. L'Allemagne, aujourd'hui, a un parc photovoltaïque qui est toujours environ 1000 fois supérieur à ce qu'on a en France.
Ce qui est énorme, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont décidé d'arrêter leur centrale d'ici quelques dizaines d'années. Donc ils sont vraiment dans un autre, on va dire, mode de développement énergétique.
Et puis il faut savoir également qu'il y a une donnée qui est importante sur tous ces contrats, c'est que ces contrats ont été établis pour 20 ans. Donc on a nos clients ont des besoins qui s'étalent non pas sur une année, donc on n'est pas là pour commercialement faire un coup et puis s'en aller. Il y a une vraie récurrence dans notre activité. Là, on vient de récupérer une centrale, par exemple, sur laquelle on doit changer des panneaux qui sont cassés très régulièrement. On a déjà changé une centaine. Le nettoyage, on a des demandes qui sont faites au départ sur des surfaces qui allaient entre, je vous disais, 250 et 2000 m². Là, on vient de terminer un chantier qui en faisait 20 000. On vient d'avoir une demande pour 60 installations, ce qui représente environ 120 000 m². Et il y a des centrales au sol, là, sur lesquelles on va être convoqué, qui représentent des surfaces de plusieurs dizaines d'hectares.
Jacques ?
Oui, non, c'était pour un petit peu préciser votre rayon d'action aujourd'hui. Vous arrivez de Dordogne, je crois.
Là, je reviens de Dordogne. Il y a 3 semaines, ils étaient à Marseille.
Ah oui, donc ça va bien au-delà de la région Aquitaine, voire Midi-Pyrénées, PACA.
Tout à fait. Moi, j'ai un réseau qui a la chance d'être relativement large. On travaille principalement quand même sur Aquitaine, Midi-Pyrénées et puis Charente-Poitou. En fait, on nous fait confiance pour plusieurs raisons. Des gens que je connaissais m'ont permis et m'ont aidé pour nous développer. Ça a été un premier point. Mais la deuxième chose, notamment sur le nettoyage, on a créé un brevet qui nous permet de nous différencier vraiment fortement de nos concurrents. On a quelques concurrents qui ont des procédés qui ne nous correspondent absolument pas. En fait, on a développé ce processus en association avec mon associé, justement.
Donc, qui permet, justement, alors, un meilleur nettoyage
Un meilleur nettoyage et surtout un meilleur respect, du produit et de l'environnement, puisque le nettoyage, comme je vous le disais, on intervient sur des panneaux, il faut qu'on conserve la productivité du panneau. On ne marche donc jamais sur ces panneaux et on a développé un procédé qui permet d'avoir une eau totalement pure. On a acheté une machine qui est très performante. D'accord. Et on a déposé sur notre fourgon un système qui permet de chauffer l'eau en même temps que les panneaux photovoltaïques. Faut savoir qu'en été, des panneaux sur une toiture peuvent monter, ils sont noirs, donc évidemment, ils chauffent très vite. Ils accumulent la chaleur, ils peuvent monter à 80 degrés.
Et la différence de chaleur entre le panneau et l'eau peut occasionner des dommages.
Et donc vieillir
prématurément.
Voilà, le vieillissement des panneaux. Donc on a développé ce système qui permet d'avoir un avantage concurrentiel fort et de nous développer de manière conséquente.
Peut-être dernière question, Grégory Boutot. Si les entreprises se posent encore la question, de savoir s'ils doivent ou pas s'équiper en panneaux photovoltaïques, c'est encore le moment de le faire. Je veux dire, s'il y a encore un intérêt vraiment.
Je dirais que s'ils doivent le faire, c'est vraiment maintenant, effectivement, puisqu'il y a des impératifs de temps. Il y a une dégressivité du tarif de rachat qui fait qu'aujourd'hui, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. On a toujours un intérêt à le faire. Il y a des vraies économies à faire. Il y a également des systèmes qui se mettent en place pour l'autoconsommation, qui vont arriver très fort sur le marché, qui vont permettre en fait de consommer l'énergie qu'on va produire. Et les collectivités locales ont des besoins également, je pense notamment à tout ce qui est clim, qui est très énergivore, ou système de séchage par exemple pour les agriculteurs. On a aujourd'hui des réponses à leur apporter à tous ces niveaux.
Alors justement, pour plus de renseignements, où on peut vous joindre?
On a un site internet qui est www.solarwash.fr. Où vous trouverez toutes nos coordonnées, le mail, service.commercial@solarwash.fr, également le numéro de portable, la maintenance. Voilà, vous aurez toutes les informations sur notre site, que ce soit pour la maintenance, le nettoyage ou toute autre activité.
Sinon, rendez-vous au site de Florac, voilà, où c'est qu'on peut
voilà,
trouver.
Ou sur le site internet de Haut-de-Garonne Développement, où il y a aussi toutes les adresses et téléphones des entreprises hébergées dans nos pépinières.
Mais écoute, juste pour souligner, je voulais juste dire, c'est aussi par le soutien de ma femme qui m'a beaucoup aidé à ce niveau, qui m'a vraiment, vraiment boosté là-dessus.
Donc on salue Madame Boutot.
Oui, effectivement, et puis je la remercie, puisque vraiment, si elle n'avait pas été là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serais en train de vous parler.
Mais vous avez bien raison, et d'autant que nous, on fait travailler les candidats à la création d'entreprise sur leur projet d'entreprise, on demande toujours comment la famille... réagit, comment elle est impliquée, intégrée dans le développement de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est important que dans une famille, tout le monde soit un petit peu prêt, parce que ça demande
l'environnement
un certain nombre
soit concerné aussi par le projet,
de sacrifices, entre guillemets, ou de contraintes, au moins. Et donc, avant de s'engager là-dedans, c'est bien que tout le monde soit d'accord.
Et puis, c'est la première personne à supporter nos craintes, nos envies et puis nos humeurs. Donc, effectivement...
On salue tous les compagnons ou les compagnes de chefs d'entreprise. Alors, voilà spécial dédicace. Merci encore, Grégory Boutot, pour cette société SolarWash ou encore SolarPerf, voilà, installée au CIF de Florac à la Pépinière. On passe tout de suite, Jacques.
On avait décidé donc avec Jean-Christophe que cette émission aussi comporte non seulement des témoignages de chefs d'entreprise de pépinière, mais aussi des témoignages de gens qui sont en capacité de donner des informations sur des dispositifs. Des dispositifs qui aident les chefs d'entreprise. C'est la raison pour laquelle on a invité effectivement deux personnes aujourd'hui.
Pascal Bernard pour la mission locale de Haute-Garonne. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et enfin, nous avons aussi invité Martin Schnapper pour FIDAQUITAINE. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
FIDAQUITAINE qui est un cabinet d'expertise comptable, c'est
bien
ça ?
Tout à fait, exactement.
Voilà Jacques, on va peut-être commencer par les emplois d'avenir. Hein. C'est vrai, on en parle beaucoup, surtout depuis le début de cette année 2013, hein, à savoir que les premiers ont été signés en début d'année. Donc effectivement, la mission locale est très concernée par cette question-là. Alors avec vous, on va essayer de revenir, Pascal Bernard, sur l'intérêt de ces emplois d'avenir et comment on peut s'en saisir, quel est le parcours que l'on doit faire pour réussir à avoir un emploi d'avenir, tout simplement.
Alors, les emplois d'avenir, les premiers ont été signés en novembre-décembre 2012.
Ah oui, je disais début d'année, c'était fin d'année 2012.
Et là, effectivement, on est en train de monter en puissance. Il faut savoir que les emplois d'avenir en direction du secteur marchand, c'est-à-dire des entreprises, a été ouvert dès le mois de juin. Jusqu'au mois de juin, signer les emplois d'avenir, les collectivités locales, territoriales et le monde associatif ou le secteur des EHPAD associatives. Voilà. Depuis le mois de juin, ces emplois d'avenir sont ouverts donc au secteur marchand. Je pense que ce soir, on va parler du secteur marchand, si vous le voulez, puisqu'il concerne les entreprises. Alors, l'emploi d'avenir, qu'est-ce que c'est ? C'est un contrat aidé. Concerne les jeunes de 16 à 25 ans. On peut signer un emploi d'avenir jusqu'à la veille des 26 ans d'un jeune.
Ah oui, donc
jusqu'à la veille.
C'est année résolue,
Voilà. Et en particulier, alors pour les jeunes qui auraient une reconnaissance de travailleur handicapé, on peut aller jusqu'à 30 ans. Alors, ces emplois d'avenir concernent des jeunes diplômés ou non diplômés. Il est prioritairement destiné aux jeunes non diplômés, donc de niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP, validé ou non. De niveau 6, c'est-à-dire sortant du système scolaire sans diplôme. De niveau 4, c'est-à-dire bac pro non validé. À partir du bac validé jusqu'à un bac plus 3 validé.
Là, c'est plutôt exceptionnel, quoi, on va dire.
On peut signer des emplois d'avenir. On est bien d'accord que nous serons obligés. Alors, le jeune qui va signer un emploi d'avenir et qui est titulaire d'un bac à bac plus 3 validé doit, pour ce qui nous concerne, nous, habiter en zone urbaine sensible.
D'accord. Donc, c'est la condition sine qua non.
C'est la condition et justifiée de 12 mois de recherche d'emploi dans les 18 derniers mois.
D'accord. Donc, une réelle difficulté à entrer dans le marché du travail.
Difficulté d'insertion professionnelle. Pour les jeunes qui seraient titulaires d'un CAP, BEP validé, là, on est sur une recherche d'emploi de 6 mois dans les 12 derniers mois, mais sans différence de zone, sans habiter en zone urbaine sensible.
D'accord.
Alors, comment ça se passe? Un employeur, connaît un jeune, par exemple, connaît un jeune, décide d'embaucher ce jeune. Bon, eh bien, il contacte la mission locale, puisque les missions locales sont porteuses des emplois d'avenir.
Donc, aucun emploi d'avenir se fait hors mission locale.
Alors, l'offre peut être ou Cap Emploi pour les personnes handicapées. D'accord. Mais une offre peut être déposée à Pôle emploi, chez nos collègues de Pôle emploi. En tout état de cause, la mission locale conclura le contrat ou Cap Emploi. D'accord. Voilà. Alors, le jeune est connu, bon, donc on va rencontrer le chef d'entreprise, on va rencontrer le jeune, on va établir, on va prendre un CV, on va prendre une fiche de poste, on va quand même demander à l'entreprise, au chef d'entreprise de quand même nous justifier cet emploi d'avenir. Et après, le dossier sera monté par la mission locale. C'est-à-dire que l'entreprise ne fait que le contrat, finalement. Nous éditons, via notre logiciel des missions locales, un CERFA, c'est-à-dire un document officiel de demande d'aide auprès de l'État pour un remboursement.
Justement, cette aide peut se monter jusqu'à combien?
Alors, pour les entreprises, pour le secteur marchand, l'aide se monte à 35%.
De
rémunération brute.
Ce qui est quand même intéressant. Ça fait du 50% de
alors, sur un SMIC brut, pour 35 heures, un emploi d'avenir revient à 1180 euros à peu près. D'accord. Par mois. Voilà.
Donc, ça reste quand même intéressant pour l'employeur.
C'est intéressant. D'autant que, par exemple, alors, l'emploi d'avenir peut être conclu sur un an, peut-être un CDD d'un an, renouvelable dans la période de 36 mois, donc deux fois. D'accord. Il peut être conclu aussi en CDI. Il faut savoir qu'une entreprise qui déciderait d'embaucher un jeune en emploi d'avenir, en CDI, va bénéficier de l'aide pendant 3 ans. D'accord. De date à date.
Ce qui était prévu pour un CDD renouvelable deux fois, mais là, d'un coup...
Voilà, donc là, pendant 3 ans, le CERFA est édité, par exemple, pour un contrat qui commencerait le 16 septembre 2013. Il continuera, le contrat sera aidé jusqu'au 15 septembre 2016. Ce CERFA, qui est donc édité par la mission locale, signé par l'entreprise, le jeune et la direction de la mission locale, est envoyé après à l'agence de services et des paiements, et l'entreprise est remboursée tous les mois.
Alors tous les mois, elle reçoit finalement un complément
Il faut savoir par contre que tous les 3 mois, l'entreprise doit justifier de la présence du jeune.
Oui, effectivement.
Bon, voilà. Sinon, l'aide est versée de manière extrêmement régulière et dès le premier mois.
Alors on voit que c'est quand même intéressant à la fois pour les jeunes parce que c'est une opportunité de peut-être avoir un premier emploi, une première expérience professionnelle, et puis pour les entreprises, les employeurs qui font une économie tout de même sur les charges et aussi sur les salaires. Donc, comment c'est perçu justement? Comment c'était perçu en termes d'objectifs? On sait qu'on avait prévu un certain nombre, c'est qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que les entreprises ont vraiment joué le jeu?
Les entreprises commencent à jouer le jeu. Jouent le jeu depuis le mois de... on n'a pas eu pas mal de contrats signés pour le 1er août, pour le 1er septembre, des entreprises justement qui ont embauché des jeunes en CDI. Hein, sur un emploi qui était justifié, hein, mais qui était pas forcément vital, mais bon, c'est une occasion. C'est une occasion pour les jeunes, enfin, de se mettre au travail. Voilà.
Alors, Jacques, des retours de vos adhérents, des entreprises, justement?
Oui, je crois que pendant, quand il y a eu l'annonce du dispositif, je pense qu'un certain nombre d'entreprises n'avaient pas forcément besoin d'embaucher, n'étaient pas en situation de pouvoir le faire. Et puis, il faut aussi le temps que l'information circule et parvienne. C'est quand même très difficile parce que tous les jours, on est noyé dans des informations. On connaît beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas cette info parce qu'il faut aller au plus près. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on avait choisi de l'évoquer.
Tout à fait.
Et que on fait régulièrement des réunions dans les clubs d'entreprise pour informer de ces sujets-là.
Et d'ailleurs, je crois savoir, Pascal Bernard, que vous préparez une grande journée au mois de septembre. Le 12 septembre, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
Le 12 septembre, en collaboration avec nos partenaires de Pôle emploi, Pôle emploi Senon et Pôle emploi Lormont, nous avons monté une journée, on va dire tous en entreprise, où 9 conseillers de la mission locale et des conseillers Pôle emploi seront en binôme et visiteront des entreprises pour lesquelles sont d'ores et déjà prévus des rendez-vous et pour lesquels aussi nous pourrons venir de manière un peu plus on va dire sauvage, voilà.
Oui, c'est-à-dire que là, les conseillers mission locale sont sur le terrain.
Voilà, nous serons sur le terrain toute la journée du 12 septembre. Nous avons des rendez-vous sur toutes les entreprises de la rive droite. Et puis, pour certaines entreprises, nous partirons à la recherche où nous irons expliquer ce fameux emploi d'avenir. Juste, je voulais juste revenir sur l'emploi d'avenir. Il est lié. Alors, si une entreprise a un besoin, n'a pas de jeunes identifiés, elle peut appeler la mission locale.
Vous avez constitué un genre de vivier.
Voilà, nous avons des CV. Nous éditons une offre, de toute manière. Et nous faisons le recrutement jusqu'à proposer des CV au chef d'entreprise qui, lui, après, fera son choix.
Et donc ça, c'est aussi un message important.
Voilà, c'est-à-dire que on peut travailler sur la fiche de poste.
L'entreprise peut vous déléguer.
Voilà, exactement. Alors, et quelque chose de très important quand même pour cet emploi d'avenir, puisqu'il est adossé à un volet formation qui est obligatoire.
C'est-à-dire que l'entreprise doit prévoir un plan de formation.
Voilà, on prévoit un plan de formation. Il est formalisé, ce plan de formation, dans un dossier d'engagement et de suivi signé par l'entreprise, le jeune et le référent mission locale. C'est-à-dire que si on détermine le nom de l'OPCA de l'entreprise, et si et quand il y aura des formations à prévoir, on pourra se tourner vers les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, qui pourront mettre en place des formations.
Écoutez, Pascal Bernard, voilà. On vous remercie pour l'ensemble de ces explications. On ne manquera pas de refaire appel à vos lumières.
Après, les coordonnées de la mission locale.
Bien sûr.
Mission locale des Hautes-Garonne, 54 avenue Hubert Dubedou à Senon, 05 57 77 31 00.
Voilà. Merci encore. À très bientôt, Pascal Bernard, pour la mission locale des Hautes-Garonne. On passe tout de suite la parole à Martin Schnepper pour FIDAQUITEL. FIDAQUITEL, on vous l'a dit, c'est un cabinet d'expertise comptable. Et avec lui, on aimerait avoir, si cela est possible, quelques explications sur le crédit d'impôt compétitivité emploi. Alors c'est vrai, Martin, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois. Alors certains se sont plaints de la complexité de ce dispositif. D'autres, on a l'impression que ça a eu du mal un peu à s'installer. Alors, on en parlait à l'instant pour le contrat d'avenir. Il faut que le temps que l'information passe, certes. Mais vous, qui êtes au plus près, finalement, vous allez essayer de nous expliquer ce que c'est et en quoi consiste le 6.
La différence avec les contrats d'avenir, c'est que la disposition relative au 6 va s'appliquer à toutes les entreprises. Donc là, c'est pas un choix, c'est pas une décision du chef d'entreprise. Toutes les entreprises, puisque ça ne vise que les entreprises, on verra tout à l'heure rapidement quelles sont les cibles qui sont visées, tout employeur peut bénéficier ou bénéficiera du crédit d'impôt compétitivité emploi. C'est une disposition qui a été mise en place à la suite du rapport Gallois qui a été remis en fin d'année dernière, où sur lequel Louis Gallois donc a fait un certain nombre de propositions pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises. On parlait tout à l'heure des panneaux solaires, c'est un exemple typique où l'industrie française est en retard par rapport à l'industrie d'autres pays.
Tout à fait.
Donc l'un des points qu'avait soulevé Louis Gallois, c'était donc dans le cadre de l'insuffisance de la productivité des entreprises, c'est le coût du travail, et donc l'objectif du crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est de faire bénéficier les employeurs d'un crédit d'impôt, c'est son nom, c'est-à-dire d'une réduction d'impôt qui va être
différé finalement.
Alors qui va être différé en ce sens que les entreprises n'en profiteront qu'en 2014, puisque c'est un crédit d'impôt qui va s'imputer sur l'impôt sur le revenu du chef d'entreprise lorsque c'est une entreprise individuelle, mais surtout, comme la majorité des employeurs sont plutôt des sociétés, sur l'impôt sur les sociétés que paieront les entreprises en 2014 au titre de leur résultat 2013. Et ce crédit d'impôt, c'est important de le signaler, sera remboursable, notamment dans le cas où l'entreprise est déficitaire, qu'elle ne paye pas d'impôt, elle bénéficiera de la restitution du crédit d'impôt. Alors ça s'applique sur les rémunérations versées par les entreprises depuis le 1er janvier 2013, c'est-à-dire que tous les salaires qui sont versés depuis le 1er janvier 2013 bénéficient du crédit d'impôt compétitivité emploi à hauteur de 4% des salaires bruts en 2013, et ce montant sera porté à 6% en 2014. Donc le montant sera augmenté. Alors pourquoi est-ce que ça impacte la trésorerie des entreprises qu'en 2014? Tout simplement, c'est que la mesure qui permettra de financer le crédit d'impôt, le 6, sera l'augmentation de la TVA oui. qui figure dans la loi de finances de l'année dernière.
Tout à fait, qui est prévue donc au 1er janvier 2014.
Qui est prévue au 2014 et qui pour l'instant serait fixée à 10% pour ce qui est aujourd'hui à 7 c'est et ça. 20% pour ce qui est aujourd'hui 6. À 19,6 si tant est que la prochaine loi de finances ne modifie pas ce taux-là. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est ce différé, en fait, c'est le fait que ça soit différé dans le temps, que ça soit pas instantané, qui peut expliquer le fait que finalement c'est plus que mais enfin c'est pas tellement plus finalement chez l'entreprise.
Alors oui, il est clair qu'il y aurait eu un impact plutôt en termes de trésorerie parce qu'aujourd'hui on parle des difficultés de trésorerie des entreprises. C'est un des points de faiblesse de la mesure, c'est que il aurait été préférable que ça se passe par exemple comme les allègements Fillon, les réductions de cotisations sociales, les différences d'abattement qu'on a connues au
bris Fillon, etc. Finalement,
donc imputation immédiate oui. sur les cotisations sociales de l'entreprise, ça aurait permis d'avoir un impact immédiat et non pas un impact différé. Mais c'est mieux que rien, il vaut mieux ça qu'autre chose. L'objectif étant quand même d'aider les entreprises françaises à être plus compétitives, notamment à l'exportation, ce qui permet par ce biais-là de réduire le coût du travail, c'était l'objectif.
Alors vous, on l'a dit, en tant que cabinet d'experts comptables, FIDAQUITAINE, est-ce que vous avez été sollicité justement par les chefs d'entreprise pour des demandes d'explications, de renseignements?
Alors, oui, tout à fait. On a fait des réunions d'ailleurs de chefs d'entreprise sur lesquelles on a expliqué la mécanique, on leur a dit expliqué comment ça allait se passer, quelles sont les obligations déclaratives des entreprises, puisque forcément il y a un suivi qui doit être mis en place. Et donc on a expliqué aux chefs d'entreprise comment allait se passer la mesure. On leur a expliqué aussi que pour pallier ce différé d'imputation en 2014 dont on a parlé, il existe des mécanismes de préfinancement qui ont été mis en place par l'État, notamment via la fameuse BPI, la Banque publique d'investissement, et par les banques, donc qui permet de mobiliser par anticipation donc ce crédit d'impôt, ce qui a pour avantage donc dans ces cas-là de gommer l'impact trésorerie, d'avoir la trésorerie par anticipation, mais ce qui a comme inconvénient d'avoir un coût forcément, parce que c'est un financement, donc c'est un crédit. Et donc tout crédit a un taux d'intérêt, même s'il est faible, ça coûte de l'argent aux entreprises. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il aurait été préférable pour les entreprises qu'on ait un impact plus rapide du crédit d'impôt.
Donc au final, on s'aperçoit que c'est plutôt les grandes entreprises qui...
Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a 1 500 000 entreprises.
À l'artisan
Toute entreprise, dès lors qu'elle a un salarié. Par contre, ça c'est important. D'accord. Un artisan qui travaille tout seul ne sera pas...
D'accord, à partir du moment où il emploie une personne. Quoi,
dès qu'il emploie une personne, dès qu'il a un salarié au sens du code du travail, le crédit d'impôt trouvera à s'appliquer. Donc ça concerne quand même 1 500 000 entreprises, des grosses bien évidemment, mais aussi toutes les petites entreprises, dès lors qu'elles ont un salarié, vont pouvoir bénéficier du crédit d'impôt.
Bon, très bien. On peut joindre, de toute façon, si on veut plus d'explications, Martin Schnepper, on peut joindre évidemment votre cabinet.
Voilà, on a un site internet, on est basé à Florac, on a un site internet, fidaquitaine.fr, donc, ou .com, vous pouvez nous trouver sur internet.
Jacques. Voilà, non mais bien sûr, moi, tout le plaisir était pour moi d'accueillir aujourd'hui Martin Schnepper, FIDAQUITAINE, puisque Martin fait partie des membres du club de partenaires de Haute-Garonne Développement, et puis j'avais beaucoup de plaisir aussi à accueillir... Pascal Bernard, avec qui je travaille régulièrement à la mission Lugal. Tous les gens qui sont là, de toute façon, on a beaucoup de plaisir à les accueillir.
Et un mot sur le club des partenaires, juste avant de finir avec l'interview de Geoffrey Ferreira. C'est le club des partenaires qui travaille et qui prépare avec beaucoup d'énergie les futures rencontres inter-entreprises.
Le salon inter-entreprises
qui aura lieu le 17 octobre, Artigues, prix Bordeaux.
On va faire très court, c'est une autre date. Le salon inter-entreprises est accueilli par la ville d'Artigues près Bordeaux le 17 octobre, donc toute la journée, avec l'aide bien sûr et le soutien du club d'entreprise d'Artigues, le club des partenaires de Haute-Garonne Développement, les membres de la création d'entreprise et puis nous-mêmes. Voilà, donc il reste encore quelques stands
à saisir.
Voilà, et donc
dernière minute,
les entreprises qui ne sont pas encore inscrites peuvent réserver leur stand mais très rapidement désormais, parce qu'on va boucler pour que la com on puisse la sortir dès la semaine prochaine.
Oh, très bien Jacques, de toute façon on reviendra évidemment sur ce salon inter-entreprise du 17 octobre à Artigues près Bordeaux dans notre prochaine écho des entreprises, à savoir donc le 23 septembre. Et on finit cette émission Jacques en donnant la parole
j'ai vraiment trop envie. On avait évoqué le fait que dans cette émission, il fallait absolument faire intervenir des gens qui suivaient des formations, qui se formaient, qui voulaient acquérir des compétences pour être au top dans l'entreprise ou pour créer leur entreprise. Alors, En lisant les magazines municipaux, et notamment celui d'Embarras et la Grave, je suis tombé sur l'itinéraire d'un enfant...
Gâteau,
finalement. Et donc, un jeune de 24 ans, Geoffrey Ferreira,
voilà, qui est présent, avec Johanna, qui l'accompagne.
Voilà, et qui en a eu marre, donc, son école en fin de troisième. Et puis, il s'est enclenché de faire autre chose. On va lui donner la parole.
On lui laisse la parole, Jacques. Alors, Geoffrey, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, en plus, je crois savoir qu'on vous accueille à l'aube d'une actualité voilà, très chaude. Hein. Demain, c'est l'ouverture d'un magasin. Alors, évidemment, on va revenir sur le parcours de formation. Mais déjà, un mot sur cet actu. Donc, ce magasin qui va s'appeler Pâtisserie Geoffrey Ferreira. Alors, qui va être situé où, Geoffrey ?
Alors, il sera situé au 8 rue Fernand Philippard. C'est à quelques mètres de la place de la Bourse. Ouais.
Enfin, je dis ce magasin, cette pâtisserie, tout simplement.
Hein. La boutique, voilà, exactement.
Voilà. Donc, alors, avant de créer votre boutique, votre propre enseigne, pâtisserie Geoffrey Ferreira à Bordeaux, voilà, il a fallu passer par certainement un parcours de formation, puis avant tout, certainement, un jour, un déclic, quoi. Jacques l'abordait à travers cet article dans ce magazine, d'Embarras et de la Grappe. Comment ça s'est passé? Alors, à l'école, justement,
c'était pas mon fort, l'école, quoi. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais je sentais que c'était pas pour moi. Donc, on propose toujours des stages en troisième de découverte.
C'est vrai. Le fameux stage de découverte de la troisième. D'ailleurs, ici, à la radio, on en reçoit, évidemment, en garde de développement aussi.
Donc, j'en ai fait un peu en tout, mécanique et tout ça, mais bon, ça me plaisait pas. Et par ma propre initiative, on m'a toujours dit que la pâtisserie c'était créatif, et donc moi j'étais très créatif. Donc,
mais enfin, vous n'étiez pas spécialement attiré par les gâteaux plus que les autres enfants, je veux dire.
Il y a un côté gourmandise, je pense. Les gâteaux et maman l'après-midi. Pareil, Donc si oui, les gâteaux avec maman l'après-midi, je pense que ça y joue un petit peu.
Ça y a fait. Ouais. Alors le déclic, une rencontre.
De ma propre initiative, pendant les fêtes, j'étais voir un pâtissier, en fait, pour essayer. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, j'ai mis les pieds dans le plat. Donc, de suite, j'ai accroché. J'ai dit, c'est génial, c'est ce que je veux faire. Et de là, j'ai cherché un patron. Alors, bizarrement, en boulangerie. J'ai commencé par la boulangerie.
Parce que souvent, on trouve la pâtisserie dans la boulangerie, finalement.
Effectivement. Donc,
mais de moins en moins. De plus en plus, la pâtisserie...
Se sépare de la boulangerie.
Ouais, c'est ça.
Après, c'est deux mondes un petit peu différents. Mais l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Parce que le pain appelle les gâteaux et les gâteaux appellent le pain aussi, pour rendre service.
Donc d'abord boulangerie, alors.
Donc d'abord boulangerie, où, CAP, mention, brevet professionnel... Et donc ça, ça prend du temps.
Ça fait quelques années d'apprentissage. Où on met vraiment la main à la pâte, là, pour le coup.
Voilà, c'est 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc on est quand même sur le terrain, où on a quand même de l'expérience.
Quelques grandes enseignes aussi, Geoffrey, dans votre parcours
Philippe Etchebest.
Ce qui n'est pas rien, hein, dans un CV déjà.
C'est une très très belle école, une très belle maison, où la rigueur et l'exigence, c'est le maître mot. Donc forcément, oui, on apprend beaucoup. Monsieur Salle à Ambès aussi, qui tient une petite boulangerie qui n'est pas forcément luxueuse, mais par contre qui a les bases du métier, les valeurs du métier. Voilà,
Et je crois savoir aussi une installation dans le jardin aussi où vous testiez vos créations famille ou les amis.
C'est que mes parents avaient un peu marre que je leur ruine la cuisine parce que j'en mettais partout, je faisais plein d'expériences, donc ils m'ont fait un labo carrément. Donc quand ils font quelque chose, généralement ils font plus que bien. Donc, on peut
remercier aussi la famille et les parents.
Beaucoup les parents, la famille qui sont donc, pour beaucoup à
la gourmandise, la formation, des nuits blanches. Des experts, quand même, dans la matière.
Et là, aujourd'hui, vous avez des grands maîtres, parce qu'on le voit, aujourd'hui, les grands pâtissiers sont reconnus dans le monde entier. La pâtisserie française a acquis ses lettres de noblesse depuis fort longtemps, certes, mais aujourd'hui, on voit des ouvrages d'art qui sont consacrés à des grands chefs pâtissiers. On a même, on est tous sur un courant aussi médiatique qui nous montre aussi beaucoup d'émissions, vrai, et des grands chefs pâtissiers aussi. Donc, vous êtes vraiment là, une nouvelle génération, on va dire, et vous avez intégré finalement ces nouveaux concepts de pâtisserie.
C'est de la pâtisserie moderne, c'est remettre un petit peu la pâtisserie ancienne au goût du jour, faire découvrir aussi de nouvelles saveurs, parce que maintenant, on s'exporte vers de nouvelles saveurs aussi. On va chercher des agrumes au Japon, des choses comme ça.
Et c'est presque comme un orfèvre aujourd'hui, des fois, quand on confectionne une pâtisserie.
C'est l'idée, c'est de faire un bijou, quoi, de faire de chaque gâteau qui soit unique.
On a plusieurs photos là sous les yeux. Oui, c'est vrai que ce sont des petits bijoux colorés, bien appétissants.
Bon, en tout cas, on pourra dès demain aller les goûter, Geoffrey Ferreira, dans votre pâtisserie, la pâtisserie Geoffrey Ferreira, en redonnant l'adresse et en contact si des fois on veut passer des commandes aussi.
Oui, il y a aussi le site internet, donc www.pâtisserieferreira.com. Donc oui, dessus, il y a toutes les coordonnées, il y a les photos, il y a vraiment tout, c'est très simple, il y a une galerie où on peut voir les réalisations, il y a un espace commandé où, par contre, c'est pas du paiement en ligne, quoi, c'est moi qui réponds par mail, donc je fais un peu tout, mm-hmm. Il faut courir partout, quoi, mais... voilà.
Et demain, vous en...
Et sur le site, demain, à partir de 8h30, voilà.
L'ouverture?
Ouverture, la première journée de la boutique.
Rue Fernand.
Donc, les horaires d'ouverture, justement, Geoffrey?
C'est 8h30, 19h30, non-stop.
Très bien. Donc, ouvert entre milliers de consolonises, hein.
Voilà.
Place de la Bourse.
Et il crée un emploi.
Oui, alors, également. Crée son emploi. Et puis, j'imagine, après avoir bénéficié des formations de l'apprentissage avec des maîtres et des grands maîtres, demain, certainement, à votre tour, vous prendrez les apprentis aussi
pour
les
former. J'ai déjà mon apprenti.
Ah, déjà, c'est le cas.
Bah, qui vient d'obtenir son CAP.
D'accord. Bon, on le félicite.
Et voilà. Félicitations, Maxime. Et, qui là part en mention. Donc, il poursuit sa formation. Et j'ai pris une vendeuse, donc en CDI, 35 heures, à temps plein, pour la boutique.
Voilà. Bon, Cynthia. On vous remercie encore. Belle équipe. On remercie encore Geoffrey Ferreira pour ce témoignage. On vous souhaite très bon courage et puis bonne réussite à votre entreprise. C'est qu'à Johanna ici présente. Alors, on vous remercie tous. Et Pascal Bernard pour la mission locale de Haute-Garonne. Martin Peur pour Fid Aquitaine. On le disait, Aurélie et Christian, co-gérants de SMO2. Mais aussi Grégory Bouteau pour SolarWatch et SolarPerf. Voilà, je crois n'oublier personne. Évidemment, on remercie Jacques. Merci. À la co-animation, à la co-animation de cette première écho des entreprises de la saison. Je crois qu'on a légèrement débordé. Et juste après nous, il y a Lacuna, évidemment, qui a déjà repris depuis quelques semaines. Donc, merci Lacuna et bonne soirée en leur compagnie. Et sans oublier de remercier Gigi à la régie, bien sûr.
Merci.
À très bientôt, en tout cas, dans 15 jours, le 23 septembre, pour un nouvel écho des entreprises.
Exactement. Merci.
Merci à tous. Au revoir.